de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'ONU appelle l'armée birmane à libérer immédiatement Aung San Suu Kyi. Covid monte en flèche, la Malaisie resserre le confinement à Kuala Lumpur. L'Indonésie et les Pays-Bas conviennent d'augmenter la production durable de l'huile de palme. L'Indonésie est l'hôte de la conférence internationale sur la gestion de la pollution marine. Sharif Hassan apprécie que le Japon envoie AstraZeneca à l'Indonésie. Cher ami, nous présente maintenant le journal complet. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé l'armée birmane à libérer immédiatement Aung San Suu Kyi et le président Win Myint. L'appel intervient un jour après que les milliers de prisonniers ont été libérés par la junte militaire de la Birmanie. Comme l'a rapporté Reuters vendredi, la Birmanie est dans la tourmente depuis que l'armée a lancé un coup d'État le 1er février qui a renversé le gouvernement civil dirigé par Suu Kyi. Depuis lors, Suu Kyi et le président Win Myint ont été détenus par la junte militaire de la Birmanie. Le porte-parole de Guterres, Eri Kaniko, a déclaré cette question dans un communiqué. Mercredi, heure locale, la junte militaire de la Birmanie a libéré plus de 2000 détenus, y compris des journalistes et des personnes inculpées de sédition pour avoir participé à des manifestations. Suu Kyi est actuellement jugé pour des accusations et encore détenu par la junte militaire de la Birmanie. La Malaisie resserre les règles de confinement à Kuala Lumpur à partir de samedi 3 juillet, en raison de la flambée de cas de COVID-19 ces derniers jours. Le ministre malaisien des Affaires de sécurité, Ismail Sabri Yaakob, a déclaré que son gouvernement resserrer le confinement en imposant un couvre-feu à 20 heures. Le confinement s'applique à 14 zones de Kuala Lumpur et 34 sous-districts de la zone de Selangor. Selon Ismail, dans un communiqué cité par The Straits Times récemment, le resserrement de ces règles est nécessaire en raison de la COVID-19 dans ces zones augmente à une moyenne de 12,1 cas par 100 000 habitants. L'Indonésie et les Pays-Bas ont convenu de poursuivre leur coopération pour accroître la production durable d'huile de palme. Le programme de coopération se déroulera de 2019 jusqu'à 2023 avec une valeur de 5 millions d'euros, 86,1 milliards de roupies. C'est ce qu'a déclaré récemment la ministre des Affaires étrangères, Ratna Marsudi, dans un communiqué de presse virtuel de l'ambassade d'Indonésie à La Haye. Selon Ratna Marsudi, les Pays-Bas sont l'un des plus gros importateurs d'huile de palme indonésienne dans l'Union européenne. 15% des exportations indonésiennes vers les Pays-Bas sont constituées d'huile de palme. La question de l'huile de palme, de l'huile végétable et des objectifs de développement durable a été soulevée lors d'une réunion de la ministre des Affaires étrangères Ratna Marsudi avec le premier ministre néerlandais Mark Rutte et ministre des Affaires étrangères Sigrid Kaag. Madame Ratna Marsudi a déclaré qu'à l'avenir, cette collaboration sera élargie pour inclure également d'autres huiles végétables dans le contexte de la contribution au ODD 2030. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Indonésie est l'hôte de la planification et signature de l'exercice régional sur la pollution marine au Marpolek en 2022 qui se tiendra à Makassar dans le sud de Sulawesi. L'exercice biennal auquel ont participé par l'Indonésie, le Japon et les Philippines vise à résoudre le problème des déversements de pétrole en mer auxquels participent les gardes-côtes de chaque pays. C'est ce qu'a déclaré le directeur de l'unité de garde de marine et garde-côtes de la Direction générale des transports maritimes du ministère des Transports, Ahmad, dans un communiqué de presse à Jakarta récemment. Marpolek est l'engagement de l'Indonésie, des Philippines et du Japon dans la mise en œuvre du plan d'action d'intervention en cas de développement hydrocarbures de l'ASEAN et du plan d'intervention du réseau de développement hydrocarbures de Sulawesi. Marpolek est également utile pour accroître la participation et l'implication des parties prenantes de l'industrie pétrolière afin de participer à la lutte au contrôle et à la lutte contre les catastrophes liées aux marées noires en mer. Le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple, ou MPR, Sharif Hassan, a remercié le gouvernement japonais d'avoir envoyé 998 400 doses de vaccin AstraZeneca en Indonésie. C'est ce qu'a dit Sharif dans sa déclaration à Jakarta vendredi. Il a ajouté que la livraison du vaccin COVID-19 était une forme de bonne coopération bilatérale entre l'Indonésie et le Japon. Il espère également que les relations entre les deux pays pourront continuer à s'améliorer dans d'autres secteurs, tels que l'investissement, la culture et l'éducation. Il a expliqué que la coopération entre les deux pays se poursuit, comme l'Indonésie fournissant une aide humanitaire au Japon lors de la catastrophe du tsunami à Miyagi le 11 mars 2011. Le gouvernement indonésien, à l'époque sous la direction du président Susilo Bambang Yudhoyono, a fait don d'une bibliothèque qui est toujours utile pour le peuple japonais. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Oh,
Chers amis des quatre coins du monde, merci d'être fidèles à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Les nouvelles de l'Indonésie. Et voici la première nouvelle de la région de Gunung Mas dans le Kalimantan central. Le Bureau de la culture et du tourisme de Gunung Mas dans la province de Kalimantan central a enregistré que les Kabetang ou l'ancienne colonie et maison traditionnelle de la tribu Berayak Ngabe Hanjung, située dans le village de Tumbang Manyangan, district de Kurun, en tant qu'objet du patrimoine culturel. Judy Dharma, le chef de la division de la préservation de la conservation culturelle, des musées et de l'enregistrement des données à Kuala Kurun, a déclaré mercredi dernier que l'enregistrement était un effort initial pour maintenir la protection et la préservation de Kaleka Betang Ngabe Hanjung. Il a expliqué que Kaleka est une ancienne colonie et que Betang est une maison traditionnelle de la tribu Dayak. Pendant ce temps, Ngabe Hanjung était l'une des figures qui ont participé au traité de paix de Tumbang Anoy à Betang Damang Batu en 1894. Les nouvelles suivantes sont venues de Yogyakarta. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan et Ratu Boko ont de nouveau fermé l'opérationnel du parc touristique du Temple Prambanan dans la province de Java Central du mercredi 30 juin jusqu'au 5 juillet 2021 parce que la zone était incluse dans la zone rouge de transmission de la COVID-19. Le secrétaire général Eni Utari a déclaré mardi dernier que la politique de fermeture du parc touristique du Temple Prambanan a été prise à la suite de la montée en flèche du nombre positif de COVID-19 confirmé qui a fait de la région de Klaten inclus dans la catégorie de la zone rouge. Et voici la dernière nouvelle du sud-est des Moluques dans la province des Moluques. Une équipe archéologue du Centre archéologique des Moluques a trouvé un certain nombre d'éclats de céramique chinois de la dynastie Qing sur le site de la grotte Batuhan, le village de Somlain, district de Kei Kecil Occidental, dans la région des Moluques du Sud-Est, la province des Moluques. Archéologue Lucas Watimena à Ambon, mardi dernier, a déclaré que l'équipe qu'il dirigeait avait occidentalement trouvé des éclats de céramique en provenance de Chine lors d'une enquête sur la collecte de données archéologiques dans la région du sud-est des Moluques en 2019. On pense que la découverte d'éclats de céramique chinoise prétendument liée aux transactions commerciales, mais on ne sait pas encore pourquoi ces objets anciens étrangers pourraient se trouver dans la grotte de Batuhan, qui est des lieux de sépulture du passé. En plus de céramique chinoise, des autres éclats de céramique et récipients de poterie y ont également été trouvés, entre autres un bol produit par la société néerlandaise vers du 19e au 20e siècle après Jésus-Christ. Chers amis, c'était la rubrique Les nouvelles de l'Indonésie. Chers amis, voici la rubrique L'Indonésie en couleur, le 3 juillet. Le 3 juillet 1920, la fondation de l'Institut de technologie de Bandung. Le 3 juillet 1920, l'Institut de technologie de Bandung a été créé sous le nom de Technische Hogeschool de Bandung, ou plus communément abrégé en TH de Bandung. TH de Bandung est le premier collège technique est le premier établissement d'enseignement supérieur des Indes orientales néerlandaises. L'Institut a été créé à l'initiative de l'agence du secteur privé, l'Institut for Hoger Technisch Onderwijs à Netherlands Indie. TH Bandung a été ouverte pour la première fois avec une faculté. Le 3 juillet 1988, le chasseur de la marine américaine a abattu l'Iran Air du vol 655. Le navire de guerre américain Vincent a abattu un avion de transport de passagers iranien le 3 juillet 1988. Les États-Unis ont admis que la fusillade était une erreur. Leurs troupes pensent que le vol 655 de l'Iran était un avion de combat iranien. Le vol Iran Air 655 est un vol de Téhéran à Dubaï. L'avion a été abattu dans le golfe Persique par des missiles américains lancés par les croiseurs USS Vincent. Le gouvernement iranien jusqu'à présent affirme que USS Vincent avait délibérément abattu l'avion, tandis que les États-Unis, après l'incident, ont exprimé le regret par l'incident, mais ils n'ont jamais formellement revendiqué leur responsabilité, versé une indemnité ou présenté des excuses officielles à l'Iran à ce jour. L'accident a tué tous les passagers et les membres d'équipage, totalisant 290 personnes. Le 3 juillet 2011, Yingluck Shinawatra, devenant la première femme premier ministre de la Thaïlande. Les élections ont lieu en Thaïlande dimanche le 3 juillet 2011 pour dissoudre le Parlement le 10 mai 2011. Dans sa campagne, Yingluck a appelé à son désir de mettre en œuvre la réconciliation nationale, éliminer la pauvreté et réduire l'impôt sur le revenu des sociétés, même si ces programmes ont été ridiculisés par le Parti démocrate. Le Parti Putai a remporté une victoire écrasante avec 47% des voix, soit 265 sièges sur 500 au Parlement thaïlandais. Yingluck Shinawatra est devenue la première femme premier ministre de l'histoire de la Thaïlande. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Bye.
chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis des quatre coins du monde, voici la rubrique l'Indonésie en couleur, intitulée Le ministère de l'Agriculture et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture lance le programme mondial de résilience sanitaire. Le ministère de l'Agriculture et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, par l'intermédiaire du Centre d'urgence pour les maladies animales transfrontalières, ont lancé le programme de résilience sanitaire mondiale le mardi 29 juin. Ce programme de 4 ans est également soutenu par l'Agence des États-Unis pour le développement international, ou USAID. Le programme de résilience sanitaire mondiale vise à prévenir diverses menaces pandémiques liées aux maladies zoonotiques ou aux maladies animales qui infectent les humains. L'attention aux maladies, la menace des maladies zoonotiques est une priorité pour le gouvernement du monde entier, y compris en Indonésie. L'Indonésie, avec 70 autres pays, travaille à accélérer le soutien politique et multisectoriel pour la préparation à la résilience en matière de santé par le biais d'une initiative mondiale appelée le Programme sur la sécurité sanitaire mondiale. Le Programme mondial de résilience en santé a été lancé pour soutenir le Programme mondial de sécurité sanitaire. Le directeur général de l'élevage et de la santé animale au ministère de l'Agriculture, Nasrullah, a déclaré lors du lancement que l'Indonésie était l'un des pays pionniers du programme mondial de sécurité sanitaire et contribue activement en tant que membre permanent de l'équipe de pilotage depuis 2016 jusqu'à 2024. Cette collaboration devrait être en mesure de prévenir, de détecter précocement et de contrôler les nouvelles maladies infectieuses, notamment celles qui ont le potentiel de menacer la santé et l'économie de l'Indonésie. Nasrullah a déclaré que le programme de résilience sanitaire mondiale est conforme au plan de développement à moyen terme du gouvernement indonésien, notamment concernant la sécurité alimentaire et la santé. Il espère que ce programme pourra être l'occasion d'accroître l'engagement mutuel. Le programme de résilience sanitaire mondiale est un nouveau programme d'une longue collaboration entre le ministère de l'Agriculture et le Centre d'urgence pour les maladies animales transfrontières de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et aussi l'Agence des États-Unis pour le Développement International pour prévenir une pandémie. Leur collaboration est débutée lors de la pandémie de grippe aviaire en 2000. À ce moment-là, l'Indonésie est l'un des pays avec des cas de grippe aviaire H5N1 avec le plus de décès humains jusqu'en 2014. Alors que le nombre de cas de grippe aviaire chez l'homme a diminué significativement et la situation endémique du virus H5N1 est encore une menace pour l'industrie avicole et la santé humaine. En dehors de la grippe aviaire, de nombreuses régions d'Indonésie sont encore endémiques de maladies zoonotiques telles que la rage, transmise par les chiens et les cygnes, et la fièvre charbonneuse, transmise par le bétail. Le Programme mondial de résilience en santé se concentre sur le soutien technique dans quatre domaines, à savoir la collaboration multisectorielle et élaboration de politiques, surveillance, laboratoire et identification des risques, préparation et riposte aux maladies avec le concept One Health, ou une santé et la santé de la volaille nationale et le contrôle de la résistance aux antimicrobiens. Chers amis, c'est à la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Terbitkan sentausa di sini.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique magazine culturel intitulée Kekara, l'un des gâteaux traditionnels de Aceh. Aceh n'est pas seulement célèbre pour ses plats d'accompagnement, mais aussi pour une variété de gâteaux sucrés. Et magazine culturel cette fois présentera un gâteau kekara unique en forme de nid d'oiseau. Kekara est l'un des gâteaux traditionnels d'Aceh qui existe jusqu'à présent. Ce gâteau légendaire au goût sucré est souvent servi lors de fêtes traditionnelles. Il est également le souvenir le plus recherché par le public et les touristes nationaux et étrangers. Kekara ou kara est fabriqué à partir d'un mélange de farine et de lait de coco sous la forme d'un javelo de taille d'une main d'adou. Ce gâteau qui s'apparente aux fibres ou aux nids d'oiseau possède un goût sucré, croquant et friable. Ce gâteau de kekara ressemble à un filet blanc brunâtre qui est superposé. La forme est similaire à celle des vermicelles secs car elle est fabriquée à partir du même matériau que le vermicelle, à savoir la farine de riz. Ce gâteau kekara est de couleur sombre avec un arôme de caramel. Le processus de fabrication de la kekara est assez simple. La farine de riz est diluée avec de l'eau et ajoutée du sucre. La pâte bien mélangée est ensuite mise dans un moule en noix de coco percée de trous. La pâte qui sort des trous du moule est immédiatement logée sur l'huile chaude tout en continuant à être secoué pour former un réseau superposé. Le processus de fabrication a besoin d'une grande agilité car cette pâte est facilement roussie si elle est chauffée trop longtemps. Ce gâteau de kekara se présente généralement sous la forme de deux sortes, un rouleau rond comme un pipe et un croissant de lune. Kekara, qui est également souvent utilisé comme cadeau des hommes aux femmes lors des mariages, convient également pour être utilisé comme ami pour boire du thé ou bien du café. Avant la fête, ce gâteau de kekara se vend bien auprès des acheteurs, car la majorité des Acehnais servent toujours ce gâteau à la fête. Chers amis, c'est un magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
kisahnya. Anak manusia, kau bisa memanggilnya dengan nama Nadia. Sebuah konsonan yang menyulitkan, membuat lidahnya bosan, tak bisa ucapkan. Dia coba pahami, setiap manusia punya hebat, punya cacat. Dia coba nikmati, hidup ini cuma sekali. Dia hanya punya modal cinta yang dia embuskan dalam setiap lagunya. Tak inginkan semua untuk suka. Dia hanya ingin tuliskan lagu tentang semua yang ada dalam hati. Saja tak mengapa. Sejak kecil dia punya mimpi jadi musisi atau apapun itu. Dan tumbuh dewasa, bulatlah sudah keputusannya untuk dapatkan mimpinya. Dia coba pahami, setiap manusia punya hebat, punya cacat. Dia coba
Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Chers amis, maintenant nous allons vous présenter la rubrique L'Indonésie en couleur, intitulée Si Asin, l'idée d'un étudiant de l'Institut Technologie 10 novembre, pour surveiller la propagation du vaccin COVID-19. Diverses innovations ont été réalisées par des étudiants indonésiens pour réduire la propagation des cas de COVID-19. Deux étudiants du département ingénierie instrumentation et du département ingénierie physique de ITS ont réussi à initier innovation sous la forme d'une application pour indiquer la répartition du vaccin COVID-19 appelé SIASIN. Cette idée innovante a remporté la première place au concours national d'essais de dièse natalis du département d'enseignement de la chimie de l'Université de Mataram en mai dernier. Hansal Pingala Maheswara, le chef d'équipe, a expliqué que l'idée de concevoir SIASIN dans son essai était motivée par les lacunes dans la gestion de COVID-19 en Indonésie. Selon lui, la gestion de la COVID-19 doit être soutenue en termes de technologie pour faciliter la diffusion de l'information et des données. SIASIN est destiné à accueillir toutes les informations liées à la vaccination COVID-19 en Indonésie. Les informations contenues comprennent le lieu de vaccination le plus proche, la sélection des calendriers de vaccination, les données sur les survivantes et les diagnostics de maladies congénitales qui sont systématisés en termes de couverture par zone. L'application de SIASIN a deux utilisateurs, à savoir le gouvernement en tant qu'administrateur et la communauté en tant que membre. Pour le gouvernement, SIASIN affichera les données sur la répartition par âge, les antécédents de vaccination, les antécédents de maladies et d'allergies, ainsi que des données sur les personnes ayant eu des contacts physiques avec des patients COVID-19. Quant à la communauté, en plus d'avoir accès au calendrier et à l'emplacement du vaccin, la facilité qui sera obtenue via SIASIN et la transparence des données concernant le nombre de personnes qui ont été vaccinées. On espère que la confiance s'établira plus tard entre la communauté et le gouvernement et facilitera le ciblage des vaccins à travers des données. Chers amis, c'était la rubrique d'Indonésie en couleur de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao. 以防止新型冠状病毒肺炎的传播，我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragen van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Forhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Voilà la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voici le magazine musical avec moi Tiwi, The Voice of Indonesia. Aujourd'hui, je vous présente la chanson de Kronjong dont le titre est Tembang Kiasan, chanté par Sri Widadi. La chanson intitulée Tembang Kiasan, en français la chanson figurative, a été créée par Budiman Bijé. Ses paroles belles et poétiques ont une signification très profonde. Cette chanson raconte de la mort des héros de la nation d'une manière déchirante. Le rythme de flûte à l'intro de cette chanson semble décrire la douleur de perdre les meilleurs personnages de la nation, mais leurs noms resteront toujours dans les mémoires. Bon, chers auditeurs, voici Sri Widadi avec la chanson intitulée Tembang Kiasan. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang, terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hati andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, oh, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en française pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.